you. Are you racing or watching?
La dispute. Ce soir, la musique. Cette émission est préparée par Justine Dibling, Virginie Duo et Boris Pinault. Prise de son assurée par Jean-Richard Dufour. Réalisation Daniel Finot. Ce soir, Christophe Comte et Olivier Lam se font face à notre affiche « Oui » de Camille chez Because, Peasant de Richard Dodson chez Domino et Cigarettes After Sex de Cigarettes After Sex chez Partisan Records. Vers 21h20, Xavier Martinez entraînera dans le petit salon pour parler de Sgt Pepper. Quelle surprise! Et puis bien sûr encore des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir, des DVD du film Taong de Wong Bing distribué par Arte. Et nous ouvrons cette émission avec le retour de Camille, 4 ans et demi après l'Olympia qui venait conclure la tournée liée à son précédent album, I Love You, sorti il y a maintenant 6 ans. L'album nouveau s'intitule Oui, avec un accent circonflexe sur le I, alors que Camille dit qu'elle voulait dire non. Reste à savoir si c'est oui ou non pour nous. Ce soir, on écoute une des chansons de l'album, Piscine.
Je suis la fille sans joie d'un demain sans fête, une larme sans poids, une boîte sans lettres. Je suis piscine de bar, une piscine d'hôtel, sur mes côtes d'azur, c'est chaud, les âmes faibles, ma salive sans le chlore, mon lit décontamine. On s'y pousse, on s'y mêle, on y commet des crimes. Je suis piscine de sang, une piscine qui sait se taire et faire semblant.
Voilà pour cet extrait de l'album Oui, avec un tréma sur le i, non pas un accent circonflexe. Je dis à ma dentiste de diminuer la dose d'anesthésique, ça m'évitera de dire trop de bêtises, même si j'en dis quand même un certain nombre. Sur cet album de Camille, moi j'ai jamais accroché avec Camille, je le confesse ici, et je le dirai dans un instant, cet album m'a agréablement surpris. Et vous, Christophe Comte, est-ce que vous êtes camillophile?
À peu près la même chose, en fait. Parce que moi, Camille, même au moment de son album Le Fil, bon, voilà, que vraiment 90% des gens, à la fois du milieu, puis aussi parce que ça avait très bien marché, considéré comme un chef-d'œuvre, une révolution dans la chanson française, j'étais resté un peu à côté de ce personnage qui me hérissait un peu. Et puis ça s'est pas arrangé par la suite, parce que quand elle a fait cet album où elle chante en anglais avec des chœurs en français, enfin, c'était très compliqué à chaque fois. On avait l'impression que c'était un peu de l'Oulipo, qu'elle allait chercher une forme. Et puis qu'elle faisait un peu la maline aussi. Et puis peut-être aussi qu'à un moment, elle a perdu le fil justement de ce qui faisait sa singularité pour devenir vraiment comme ça, une espèce de personnage excentrique qu'on invitait. On se souvient peut-être tous, et je pense que je l'ai revu la séquence il n'y a pas très longtemps face à François Hollande à la fête de la musique où elle chante.
J'ai raté ça.
Elle chante à 4 cm de lui et il est très embarrassé. C'est une séquence horrible. C'est très embarrassant pour tout le monde. Et tout ça,
j'irai
bon,
voir ça.
Oui, non, il faut le voir. C'est quand même, je pense qu'il a perdu beaucoup de points encore dans sa pauvre popularité ce jour-là où il a l'air d'un couillon. Enfin, bref. Et là, alors, je vais dire que cet album est quand même d'une grâce absolue. C'est-à-dire que dès les premières notes, on a compris où elle allait. C'est-à-dire qu'elle allait travailler avec sa voix essentiellement, avec cet instrument-là qu'on peut quand même reconnaître assez voilà, prodigieux, parce que on a beau dire qu'elle peut avoir des côtés agaçants, il y en a hein, sur l'album, mais quand même elle a une voix extraordinaire, elle fait toutes les voix, elle a pas voulu ce coup-ci s'entourer de choristes, etc., elle a voulu tout faire elle-même, et ça donne un disque comme on a presque jamais entendu, donc un peu inouï pour le coup, parce que même si ça rappelle parfois des gens comme Brigitte Fontaine, Jeanne-Marie Sens, enfin des chanteuses comme ça des années 70 un peu
à caractère.
Il y a quelque chose d'autre. Dans la production, c'est assez somptueux, c'est très à la fois minimaliste, mais quand ça doit vraiment marquer le coup, il y a des choses comme on l'a entendu sur le morceau. Qui sont pas voilà des instrumentations classiques de la pop, et je trouve qu'elle a aussi bien dans l'interprétation que dans la production et dans ce qu'elle raconte atteint là une espèce quand même de perfection qu'on aura du mal, et je pense que beaucoup de gens qui sont de très mauvaise foi voilà continueront de manière très élégante à la traiter d'hystérique ou je ne sais quoi. On peut pas dire ça très honnêtement quand on entend la beauté de certains morceaux. Je pense au morceau « Je mâche mes mots », je crois. Enfin, des choses comme ça. Le premier morceau de l'album aussi, qui est absolument magnifique. Enfin, tout ça fait quand même arriver à un disque très impressionnant dans le paysage français, parce que, encore une fois, totalement inouï.
Bon, je vous suis sur beaucoup de points. Olivier Lam, sur Camille.
C'est compliqué, parce que le Camille, c'est un tout. C'est-à-dire, c'est des mots, une âme, une personnalité très forte qui infuse tellement sa musique que si on a un problème avec une partie de la musique, on est très facilement tenté par le rejet. Et là, il y a du titre de l'album jusqu'à certaines paroles de certaines chansons, évidemment tout le bruit médiatique autour, une espèce d'injonction au vivre ensemble, à la musique comme un truc de partage, un prosélytisme un peu hippie, supermarché, qui me hérisse le poil, littéralement. Enfin, je pense que parler au nom d'une certaine partie de la population de ce pays en disant que elle a un côté insupportable et assez arrogant dans une espèce de fausse générosité, moi qui me rebute. Après, il y a aussi une veine dans l'album qui est et une veine dans sa personnalité de musicienne qui est celle d'une vraie pop star. Dont on devine vraiment dont on perçoit vraiment la présence très forte dans, on va dire, à la fois dans l'ambition plastique du disque et certaines chansons qui sont celles où finalement elle fait moins la maline, je trouve. Il y a eu un morceau chantant en anglais notamment, un morceau qui s'appelle Seeds, où son talent de compositrice, de chanteuse, d'arrangeuse, d'inventeuse aussi est absolument indéniable. Et là, il y a une sorte de entre une Björk et une Sia française, effectivement, qui a un niveau comme peu de musiciens peuvent le revendiquer en France. Après, moi, je peux pas m'empêcher de penser que, voilà, l'injonction, la poésie, l'oulipisme un peu de supermarché, les emprunts à la musique celtique quand même qui sont très lourds. Il y a un morceau qui s'appelle Les Loups. C'est,
je pense que c'est plutôt le folklore auvergnat qui l'a inspiré pour le coup.
Ou auvergnat, une musique traditionnelle qui est revisitée par d'autres, je trouve, de manière beaucoup plus heureuse. Là, avec toutes ces textures électroniques, on est vraiment à la limite du Camoulox. Hein, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Moi, ça me plus près d'Enya que d'une grâce. Moi, donc il y a quand même une vraie arrogance. Par moment, je trouve que sa virtuosité vire à l'arrogance. Voilà. Après, moi, je parle d'un point de vue, un peu dépassionné, d'un point de vue plus personnel. Je suis assez peu sensible à son univers, plus sensible à certaines de ses mélodies. Il y a quelque chose. Donc voilà. Donc je suis vraiment pris dans un paradoxe. Je peux pas vraiment dire ce que je pense de ce disque. Je peux essayer de
plutôt de... pas beaucoup de bien quand même.
Non mais c'est-à-dire que j'ai pas du tout envie de
sans lui tomber dessus
de manière injuste. Voilà, j'avais pris avec moi au début pour ricaner la déclaration d'intention de la SNCF à propos du nouveau TGV, la Inouï. Et je vous jure que si on lit l'explication du nom, on est vraiment ça ressemble vraiment à la réponse dans une interview de Camille, comme elle a pu en donner aux Inoccupables cette semaine. Voilà. Mais j'ai pas envie de ricaner non plus parce que en même temps, les gens différents, il faut en musique, les originaux, c'est ceux qui cherchent, c'est ceux qui trouvent, donc c'est ceux qui font avancer la musique. Donc je pense qu'elle fait avancer la chanson française.
Alors c'est vrai que, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai jamais été sensible à son univers musical jusqu'à présent. Je suis pas beaucoup au fait du bruit médiatique dont vous parlez concernant Camille. Moi, j'ai pas lu d'entretien, donc je sais pas bien ce qu'elle pense. Je me suis vraiment, je suis resté sur le disque. Donc j'entends pas d'arrogance. Ça, vraiment, c'est une chose qui, en tant qu'auditeur de musique, m'a tout à fait échappé. Je peux considérer certains textes plus faibles que d'autres, mais il y a quand même une sensibilité à l'œuvre, qui a une concision aussi. On n'a pas dit 11 morceaux, 38 minutes. On parle souvent des albums tellement trop longs qu'ils sortent régulièrement. Je trouve que ça, c'est quand même un point positif. Il y a beaucoup d'albums qui nous paraissent aujourd'hui interminables. Qualité de production à l'évidence. Alors, j'avoue que je ne savais même pas que c'était elle qui faisait toutes les voix. Donc, vous me l'apprenez.
Sur ce disque-là,
sur ce disque-là, en tout cas, j'ai entendu que parce que les chœurs n'étaient pas très heureux auparavant. Moi, il y a une élégance, une grâce qui m'a vraiment, saisi dès la première écoute et qui s'est plutôt confirmée. Moi, j'avais hésité à passer le dernier morceau de l'album qui s'appelle La Langue, que je trouve très beau, mais je me suis tout à fait conforté au choix que vous aviez proposé pour cette émission, parce que je trouve qu'il y a quand même beaucoup de très beaux morceaux dans un album que je trouve assez, très cohérent. Christophe.
Ah, je suis entièrement d'accord avec vous, et encore une fois, moi je partais de loin également, et sans avoir d'inimitié du tout, hein, parce que c'est une personne qui m'est arrivé de rencontrer, et que je trouve dans ses excès aussi assez charmante. Elle a un côté, elle est totalement entière, elle y va à fond. La maternité était un truc. Alors il y a un morceau qui s'appelle Fontaine de lait qui parle un peu de ça, et ça a été un truc assez extravagant. Quand elle a fait à une époque tout un tour de France où elle rencontrait des gens, elle dansait avec eux dans les villages, elle a fait tout un feuilleton comme ça à l'époque chez Pascal Clark sur France Inter, c'était agaçant aussi parce qu'elle allait, il y avait un côté comme ça, elle débarquait, mais c'était pas des magots, je trouve qu'elle l'a fait pendant des mois, elle marchait pieds nus, elle a tout ce côté baba cool, un peu dont on peut se moquer facilement, enfin il y a tellement de gens cyniques, tellement de gens, je crois pas qu'elle soit cynique, c'est une fille totalement entière qui a la chance de partager sa vie avec un producteur exceptionnel qui est Clément Ducol, qui lui façonne des disques comme aucun autre réalisateur ne pourrait le faire, parce que forcément il la connaît mieux que quiconque, mais Voilà, il y a quelque chose là-dedans qui est de l'ordre de la symbiose. Enfin, j'ai pas vérifié, c'est d'ailleurs c'était Clément Ducol qui avait réalisé cet album, mais je crois, c'est toujours le cas. Oui. Bon, voilà, il y a quelque chose de fusionnel dans leur manière de travailler qui a amené Clément Ducol à devenir un réalisateur pour moi en France très très important. C'est lui qui a fait les deux derniers albums de Delerm avec une proposition musicale très radicale. Et c'est quelqu'un, voilà, qui aussi en symbiose avec Camille, voilà, tente des choses, et ces choses-là sont quand même à signaler dans une époque où beaucoup de gens quand même se contentent de faire des albums très syndicaux, très toute cette pop française assez détestable, moi je trouve, néo-variété, des fishbacks et des machins qui nous ramènent à, on en a déjà parlé ici, mais
aux mauvaises années 80.
Voilà, bah là au moins on n'est pas dans ce truc-là du tout, quoi, et ça fait du bien.
Et Olivier, là, un dernier mot?
Oui, non, moi je continue à penser que toutes ces jeux de langue, ces allitérations, ces machins, ça raconte pas grand-chose.
Voilà. Tu n'as jamais planté un Twix, c'est pour ça.
C'est pas, sans doute, c'est à cause de... C'est pour ça.
J'ai essayé, ça pousse pas.
Ça pousse pas, non, hélas. Enfin, Twix serait en faillite.
Non, mais voilà, je pense qu'il y a les gens qui détestent Camille, l'aimeront pas avec ce disque.
Bah, et moi, inversement. Vraiment, je la détestais pas, mais franchement, elle m'horripilait plutôt pour ce que j'en voyais et entendais jusque-là. Donc, j'ai eu la révélation avec ce oui, avec un tréma sur le i de Camille.
C'est très important, le tréma sur le i.
Ah, il y est, donc je le précise. Oui.
Parce que du coup, on peut pas dire non. Enfin, on peut dire non avec un tréma sur le haut, et du coup, ça peut dire la même chose.
Très bien, et ça sort demain chez Because. Il y a beaucoup de concerts à venir. La Cigale à Paris, c'est complet la semaine prochaine. Il y aura Wheel of Green, le festival également parisien, le 11 juin. Il y aura de la Suisse, du Luxembourg, et puis pas mal de festivals, évidemment. Vercors Music Festival à Autran, le 11 juillet. Les Francopholies à La Rochelle, le 14 juillet. Les Vieilles Charrues, le 15 juillet. Les Nuits de Fourvière à Lyon, le 20 juillet. Après, ça continuera en Suisse, à Nice, aux Nuits Secrètes, à Saint-Nazaire. Bref, il y a des dates jusqu'à la fin de l'année. Tiens, j'en ai trois dernières. Décembre, 6 décembre, Montpellier, 7 décembre, Marseille, 19 décembre, Limoges. Et même des dates pour 2018 qui commencent déjà à arriver. 20 janvier, Bordeaux, puis Toulouse, puis Le Mans. Le 20 février, elle repart sur les routes, pieds nus, peut-être. Allez savoir, Camille.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte.
Et à suivre dans la dispute, Richard Dawson et Cigarettes After Sex. Mais avant cela, Xavier Martinet nous invite dans le petit salon. Bonsoir, cher Xavier.
Bonsoir, Arnaud.
Alors, à qui profite le coffret ?
Le coffret de Sgt Pepper. Sgt Pepper, Lonely Hearts Club Band, pour le titre complet de cet album des Beatles. Donc, de nouveau disponible depuis la fin de la semaine dernière et pour une première remasterisation depuis 50 ans. Vous le connaissez peut-être, cet album, c'est celui qui a pour pochette la photographie du groupe en costume édouardien, très coloré, parmi une multitude de célébrités et le nom du groupe en arbuste taillé. C'est aussi celui qui contient Lucy in the Sky with Diamonds, par exemple, ou When I Am 64. Et puis, c'est un album sorti 5 ans après la formation du groupe. Deux indices, simplement pour nous rappeler, après toute la presse, Brice Couturier et Mathieu Conquet aussi d'ailleurs, qu'il s'agit d'un album qui a marqué l'histoire du pop-rock, vendu à plus de 30 millions d'exemplaires et classé meilleur album de tous les temps par Rolling Stones en 1987, au point qu'il préfigurait le Summer of Love, disent certains, de l'été 1967, puisqu'il est sorti effectivement le 1er juin 1967. Les gens n'écoutent plus juste un groupe, mais un nouveau monde, plus seulement un groupe, mais une œuvre picturale, disait ainsi Giles Martin, qui est le fils du producteur historique et qui s'occupe de produire cet album. C'est sans doute une partie de l'intérêt patrimonial de cette édition, 50 ans donc jour pour jour après. Les Beatles sont donc droit, eux aussi, à leur coffret super de luxe, en 4 CD, un DVD, un Blu-ray, des titres inédits, une version dans l'ordre du studio, un documentaire, un livre de 144 pages signées par Paul McCartney et Giles Martin. Donc, c'est un peu le classique du coffret avec mise en avant d'une certaine authenticité, même si certains l'ont noté, paradoxalement, le clou de cette édition est en fait une remasterisation en stéréo des bandes originales, elles en mono. Alors, les rééditions de luxe ne sont pas nouvelles, c'est même un classique dans le monde de la musique, écrivait Le Parisien. Tous les 20 ans environ, poursuit-il, les catalogues les plus vendeurs de l'industrie musicale font l'objet d'une réédition pour se mettre au niveau des technologies, vendre les mêmes albums plus chers, éventuellement étendre ses droits sur un catalogue. D'ailleurs, aujourd'hui paraissent deux autres super coffrets, cet Exodus de Bob Marley, de Joshua Tree, de U2. C'était le cas aussi l'année dernière pour un live de Led Zeppelin, aussi deux albums de Metallica, tous donc en coffret super deluxe, dont le contenu peut faire penser parfois à une panoplie du fan, un peu comme pour Kraftwerk, la réédition la semaine dernière de ce coffret de 8 CD et un Blu-ray en Dolby 3D utilisable avec un casque virtuel, réelle plus-value selon Libération en tout cas. Deuxièmement, on remarque que les rééditions en mono quand même se multiplient, contrairement à cet album des Beatles. Déjà, c'était le cas pour un autre album des Beatles en 2009, pour les Doors l'année dernière, les Rolling Stones également. Nouvelle marotte dans l'industrie du disque, la réédition en mono est un graal pour les collectionneurs, écrivait même en novembre Laurent Rigoulet dans Télérama, d'où une tendance des éditeurs à peut-être parfois survaloriser, à jouer sur un élitisme bien pensé, jugeait Sylvain Siclier là en 2015 dans Le Monde, déjà, pour qui le rythme de ces rééditions anniversaires s'intensifie, même réédition à grand spectacle, dit-il par exemple, de Sticky Fingers à l'époque des Rolling Stones ou la bande originale de Virgin Suicides par R. Voilà, donc France Inter lui notait que les Beatles avaient un peu échappé aux rééditions. Je remarque que c'est quand même la 10e ou 11e avec inédit depuis 1970. Ce n'est pas la première remasterisation, avec des succès là par contre très divers. Alors avec des coffrets qui, c'est vrai, dépassent facilement 100€, est-ce que d'abord ces rééditions des Beatles sont élitistes et que pensez-vous de ce reproche? Y a-t-il une mode, voilà, des coffrets luxueux mais sans intérêt?
Bon, comme c'est la une des Arocs, Christophe Comte, on commence avec vous.
Petite précision, c'est pas une remasterisation, c'est un remixage des bandes. Et c'est là la grande différence avec la remasterisation de 2009, notamment, pour lequel on avait été conviés, les journalistes, à Bayreuth, on avait expliqué à l'époque, c'était le top du top. Et là, Giles Martin a repris les bandes, des bandes qui n'avaient pas été mixées à l'époque. Ils ont trouvé des bandes master qui n'avaient pas été mixées. Et il a remixé avec sa vision à lui de ce que peut être aujourd'hui un Sgt Pepper en 2017 avec une spatialisation très différente, avec des choses qu'on entend qui étaient sur les bandes originales et qu'on n'entendait pas et qui sont remises en avant. Certaines voix doublées qu'on n'entendait pas à l'origine sur le mix mono notamment parce que voilà, c'est beaucoup plus étroit. Enfin, moi j'ai trouvé ça assez bluffant. En dehors de ce truc-là, on peut très bien acheter une version simple qui coûte 9€ ou 10€ de cette remaster... Ce remixage ou une version double avec des inédits, enfin bon, et pour les collectionneurs, les fans, etc., il y a ces gros coffrets qui prennent beaucoup de place. Et qui sont pas toujours effectivement très heureux parce que bon là il y a beaucoup de titres inédits, enfin en tout cas de versions inédites de beaucoup de morceaux. Il y a des coffrets comme ceux de McCartney par exemple en solo qui sont très très beaux avec des très beaux objets, très beaux livres, etc. Mais les bonus, c'est trois faces B et deux vidéos qu'on a vues sur YouTube 50 fois. C'est pas forcément la plus-value de ces coffrets-là et pas forcément très intéressante. Mais des fois c'est quand même aussi une espèce de boîte au trésor où il y a des choses incroyables. Ça varie selon les groupes aussi qui ont passé beaucoup de temps en studio ou pas. On peut pas non plus inventer des morceaux inédits, des choses. Après, ça s'adresse à des gens assez fortunés que visent aujourd'hui les labels parce que la crise étant ce qu'elle est, aujourd'hui on vend du streaming pour que dalle et on vend des objets très très chers à 200, parfois 300€ pour des gens qui ont les moyens. C'est exactement comme dans les concerts. Aujourd'hui, on vous vend des bundles. Vous pouvez aller serrer la louche de l'artiste. Mais pour 2000€, vous pouvez aller le voir 5 minutes, faire signer un autographe, assister aux balances. Il y a des gens qui se payent ça pour aller voir leurs idoles. Moi, ça me dérange pas plus que ça. Ce que je trouve un peu... un peu dommage, c'est que ça devienne maintenant un systématisme, même pour des choses parfois un peu anecdotiques, quoi. Donc on se retrouve comme ça avec des coffrets sans intérêt. Mais tout le travail qui a été fait chez Universal autour des Who, par exemple, est magnifique.
Ouais, on en avait parlé en dernier.
Tous les albums quasiment sont ressortis comme ça, et il y a une vraie plus-value.
En coffret super de luxe.
Voilà. Et puis, bon, encore une fois, il y a des versions plus moins coûteuses qui sont également mises sur le marché. Voilà, les gens peuvent choisir s'ils ont envie de dépenser 160 €. Grand bien leur face, personne ne les oblige.
Et concernant Sgt Pepper, puisque c'est l'actualité.
Moi, très honnêtement, je pense que.
On peut se limiter au double CD ou...
Bon, on peut, oui. Si on est vraiment très très fan et qu'on a un peu d'argent et qu'on a envie d'avoir un beau coffret, le livre est très très beau. Ça, pour le coup, aussi bien, c'était déjà le cas dans le coffret de vinyle des Beatles où il y avait un livre somptueux. Et là, c'est la même chose. Ils ont vraiment soigné cet ouvrage. Après, le reste, bon, c'est un peu négatif.
Olivier Lam,
moi, il me semble que ça interroge vraiment notre rapport à la culture, en fait, en général. On est passé d'un état de pauvreté, littéralement de la musique, où la plupart des gens s'achetaient un disque par mois, si c'était des fans de musique, peut-être un par semaine, si c'était un peu fortuné, et où la totalité de ce qu'on pouvait avoir comme nouveauté à se mettre sous la dent, c'était 30, 40 minutes, éventuellement une heure de musique nouvelle. Et à part pirater de la musique en cassette, c'était la seule manière de se mettre des choses nouvelles sous la dent. On est passé à une ère d'abondance, d'abord avec le téléchargement illégal et un peu délirant, puis à l'ère du streaming. Et à côté de ça, on est le premier siècle, c'est Alberto Mangel, le fameux critique, qui parle le premier siècle qui risque de ne laisser aucune trace derrière lui, puisque ce grand chambardement, passage du matériel au virtuel, fait que peut-être qu'on sera le premier siècle à laisser quasiment aucune trace derrière nous. Ça crée, je pense, beaucoup d'anxiété chez les gens. Et peut-être qu'une des réponses à ça, notamment chez les fans de musique, c'est un hyper-matérialisme un peu hystérique. On veut que plus rien ne nous échappe. Et comme on a eu accès à énormément de choses, on va dire, rares, que ce soit des musiques un peu oubliées ou alors des choses de groupes très connus qui étaient très obscurs, eh ben on a envie un peu d'inscrire ça dans le marbre. Et donc, on nous vend des coffrets avec... En gros, comme on promettait à l'époque des premiers CD, la musique qu'on pourra écouter pour l'éternité. Je pense qu'on a un peu envie d'éternité. On a envie, et comme avec Internet, il y a beaucoup de gens qui sont devenus mélomanes plus facilement, comme grâce à Wikipédia, on peut tous se transformer en spécialiste, enfin en avoir l'illusion en un instant, bah ça correspond à un régime, je pense, de consommation de la culture qui a l'air logique. La question après, c'est que on sait que écouter de la musique et devenir un vrai spécialiste et rentrer dans les œuvres, ça prend du temps. Ça, c'est quelque chose qu'aucun objet
aide un peu à ça. C'est une éditorialisation comme la Pléiade.
Bien sûr.
Avec des analyses.
Mais on sait que la Pléiade, par exemple, les notes sont lues par... les appareils critiques de la Pléiade, finalement, ça va très peu de gens.
Les volumes sont déjà peu ouverts.
Oui.
Ils sont souvent dans les bibliothèques.
Mais au moins, ça existe.
Peu ouverts.
Je pense que si on achète le gros coffret Beatles sans rien connaître de Sgt Pepper, à la sortie, on connaît beaucoup de choses. Sans passer par Wikipédia et tout ça. Et là, on est vraiment
un vrai contact.
Voilà. Bon, après, on n'est pas obligé.
Après, c'est aussi des objets qu'on a envie de posséder, quand bien même on sait soi-même que peut-être on n'écoutera jamais l'intégralité de ce qu'on y trouve. Je pense à ce coffret de Bob Dylan que j'ai acheté, je me suis fait offrir à Noël, l'intégralité des concerts de la fameuse tournée de 1966, quasiment jour par jour, avec des enregistrements de qualité très diverses. Je suis à peu près certain que je n'écouterai jamais l'intégralité.
Mais
je vais à la maison et je suis très heureux de l'avoir en tant que voilà. Je me dis, j'y retournerai sur mes vieux jours. Ça sera sans doute jamais le cas, mais voilà.
Mais c'est là.
C'est là.
Xavier Martinet.
Oui, oui, en écoutant Olivier, c'est vrai, je me disais, on peut pas s'empêcher de penser qu'il y a une dimension pas seulement nostalgique, effectivement, mais presque parfois muséale, on pourrait dire, côté musée, à domicile de ces rééditions en grand coffret de luxe, avec effectivement un certain nombre d'objets. Pourquoi j'y pensais ? Parce que c'est lié aussi à cette manière dont, effectivement, Internet et la dématérialisation a fait irruption dans le monde de la musique. Là, si on a justement tant aujourd'hui un accent qui est mis par les éditeurs, par exemple, sur les rééditions en mono, je me demandais si c'était pas de la même manière une manière de revaloriser, mais de revaloriser techniquement aussi les œuvres, quelque chose qui se fait de plus en plus, je le disais, pour les Doors. Et j'en veux pour preuve que cet album-là, Sgt Pepper, il a une histoire également qui se trouve à cheval, si j'ai bien compris, pour la vie des Beatles, entre la période où ils font beaucoup de concerts et la période où ils vont passer au studio. Et c'est un peu le premier album qui, justement, signe cette entrée en studio, et il a cette histoire effectivement d'enregistrement en mono qui tout de suite a été passé par George Martin, si j'ai bien compris, en stéréo pour des besoins de diffusion. Mais alors là, Paul McCartney était plus dans le coup, il n'était pas forcément d'accord. Du coup, ressortir aujourd'hui cet album et peut-être certains autres en mono, ou en discuter de leur sortie en mono, en stéréo, ça témoigne effectivement d'un intérêt, c'est pour ça que je disais muséal, mais quasiment technique pour les conditions de production, etc.
Christophe Comte ?
Oui, parce qu'on a évidemment, la technologie a tellement évolué ces dernières années qu'elle permet d'isoler des sources, de refaire des bandes, enfin de refaire des masters. Et quand on va, moi ça m'est arrivé deux fois d'aller à Abbey Road, et pour les Beatles et pour Pink Floyd, deux groupes quand même pour lesquels le son est très important, avec des ingénieurs qui vous expliquent tout ce qu'ils ont fait. Vous écoutez ça dans les studios d'Abbey Road, vous avez l'impression de réécouter quelque chose de totalement inédit. Après, quand on rentre chez soi, qu'on l'écoute sur ses enceintes pourries, c'est moins le cas. Mais c'est vrai que ces types-là sont quand même des
orfèvres.
C'est des orfèvres. Et ils sont employés par les studios pour faire vivre une œuvre très importante et commercialement très juteuse, faut pas l'oublier, mais quand même, malgré tout, ils pourraient se contenter, comme dans la première génération des CD des Beatles, qui était épouvantable, de balancer des choses comme ça, et les gens continueraient à les acheter.
Comme les premiers DVD qui étaient souvent repiqués sur des mauvaises VHS.
Aujourd'hui, les albums des Beatles sont vendus dans les kiosques, bon, c'est devenu très démonétisé. Redonner une sorte de valeur forte à un album comme Sgt Pepper, encore une fois, c'est le premier disque des Beatles à bénéficier d'un traitement comme ça. Il y avait une édition des 20 ans du double blanc qui était pas mal, mais c'était pas non plus. Et là, on rentre vraiment dans un disque qui est très important à bien des égards.
Olivier Lame ?
Non, je suis
très bien.
D'accord.
Très bien, ça, il me reste à annoncer l'exposition qui est ouverte ce jour à la Maison de la Radio, exposition expérience autour de cet album Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band, puisque c'est une exposition immersive. On va se promener, vous avez des infos là-dessus, vous avez travaillé là-dessus.
J'ai pas plus d'infos, non, j'aurai un petit chiffre.
Ça va être une balade, un parcours 3D interactif, radio guidé. On rentrera 4x4 comme les Beatles, hein, dans les différents univers et les différentes thématiques. Il y aura aussi une exposition évidemment de quelques disques de l'invraisemblable discothèque de Radio France, avec des visuels qui ont été inspirés par cet album. Et puis il y a plusieurs émissions. Bah, en ce moment même, chez nos camarades de France Inter, il y a un hommage au studio 104 avec Rover. Et puis mercredi 21 juin, c'est la fête de la musique, donc ce sera aussi un peu la fête des Beatles sur les antennes de Radio France, vous vouliez dire ?
Oui, je voulais simplement préciser que c'était effectivement juteux pour les éditeurs, puisque ce sont 30 millions d'albums de Sgt Pepper qui sont vendus. C'est autant que le nombre de rééditions qui se sont vendues depuis 1970 également.
On regardera les chiffres des ventes des coffrets, est-ce qu'on le saura ? On verra les différentes éditions. Et puisque nous parlions à l'instant de réédition, signalons même qu'il y a un an et demi, deux albums de Richard Dawson ont été réédités, The Glass Trunk et The Magic Bridge. Est-ce qu'il faudrait commencer par ça, Olivier Lame, avant de parler du nouveau Peasant ?
On peut commencer par ces deux albums qui sont absolument somptueux, je trouve. On peut aussi commencer par l'album précédent qui s'appelait Nothing Important. Peut-être effectivement The Glass Trunk, qui est le premier disque à avoir bénéficié d'une distribution à peu près décente de Richard Dawson, qui est le premier disque pour lequel il a replongé dans des un peu dans le passé, notamment en fouillant un scrapbook, une sorte de livre qui compilait des diverses coupures de journaux de la fin du 19e siècle, des histoires de meurtres, de possessions, etc., qui l'avait notamment inspiré pour écrire ses propres chansons. C'est quelqu'un qui fouille beaucoup le passé pour encore plus pour ce nouvel album.
Le nouvel album, Pizan, sort demain. On a déjà compris qu'Olivier Lam y attache une grande importance et va nous dire pourquoi dans quelques minutes après avoir écouté le morceau Soldier.
My heart is full of hope.
Les cordes vibrent hein, chez Richard Dawson. Puisqu'on a, j'ai déjà un peu divulgué votre engouement, je voudrais entendre Christophe Comte parler de Peasant et Richard Dawson.
Alors, je prends un peu l'histoire en cours. J'ai, pour être tout à fait honnête, j'ai reçu les derniers albums de Richard Dawson. Je les ai écoutés, je n'ai pas tenu jusqu'au bout. J'avais pas tellement creusé son histoire, je savais pas trop, j'avais juste l'impression d'entendre quelqu'un qui me parlait un peu fort dans l'oreille, avec pas forcément beaucoup de grâce. Et l'âge venant, j'ai beaucoup de mal à m'infliger des choses qui me font mal au tympan. Donc c'est vrai que j'étais un petit peu passé à côté, je nourrissais même une sorte de défiance vis-à-vis de ce garçon qui est très productif. Il fait partie, alors là, sur cet album-là, je sais pas, bon, peut-être parce que j'ai dû l'écouter de manière plus précise pour cette émission, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de très touchant, de très bouleversant dans sa manière de chanter, mais on peut pas se contenter de ça. Moi, je sais pas très bien dans quelle galaxie, d'où il vient, comment on peut le raccorder. Pour moi, il m'a fait penser à quelqu'un que j'ai toujours trouvé très, extrêmement sympathique et extrêmement difficile à écouter, qui était Kevin Coyne, dans les années 70-80, qui avait une voix comme ça très particulière, et j'ai 4 ou 5, peut-être 10 albums de lui que j'ai jamais écouté jusqu'au bout. Il y a aussi dans le genre David Thomas de Père Ubu, enfin ses voix très bizarres. On en a parlé tout à l'heure, peut-être hors antenne d'ailleurs, Bonnie Prince Billy, c'est pareil, c'est quelqu'un qui j'ai beaucoup de mal à... Donc Daniel Johnston aussi, qui est un peu similaire dans cette espèce de côté plus enfantin, plus... Alors je me suis un peu renseigné, j'ai vu qu'il avait une maladie de la rétine, un truc qui est apparemment une maladie dégénérative qui modifie sa manière de voir le monde, hein, il le dit dans une interview que j'ai lue, et qui occasionne comme ça des visions par moments un peu psychédéliques, ou en tout cas la manière dont il les décrit, ça ressemble un peu à ça. Et d'une certaine manière, sa musique parfois ressemble à ça, à une version déformée de quelque chose qui serait peut-être plus classique, plus folk, et qui d'un coup prend comme ça une sorte de je sais pas comment on pourrait dire, mais de déformation un peu bizarre, d'excroissance, de choses très étranges à l'écoute, et qui rendent ça finalement assez intéressant aussi à écouter. Mais peut-être plus par curiosité intellectuelle que par plaisir auditif. Voilà.
Ça pourrait être, parce qu'on va en parler demain, une bande-son pour Pierre Lapolice, peut-être. Ça pourrait être un peu raccord, mais c'est vrai que je vous aime beaucoup, Olivier, là, mais que je respecte votre choix, et vous allez nous dire tout le bonheur que vous avez. Moi, j'en ai pas eu beaucoup non plus. C'est vrai que, alors, je découvre cette perception différente de la réalité. Alors, c'est vrai que du coup, la voix, elle est quand même très particulière. Mais il y a des voix de cet ordre-là que j'aime bien. Celle-ci, c'est moins le cas. Mais du coup, la distorsion ou dégénérescence, mais désaccord de guitare aussi, parce que on entend sur ce morceau, on a l'impression qu'il accorde sa guitare au début, or elles sont rarement accordées, mais elles sont peut-être accordées à son timbre à lui, peut-être.
Elles frisent, c'est sûr, elles frisent beaucoup les guitares, ça ne vibre pas sur des... De manière qui nous est habituelle un peu à l'oreille. Je suis surpris que vous soyez pas plus sensible, surtout que cet album-là, c'est son album le plus ambitieux.
Le plus
accessible, oui, non, mais c'est vrai, en plus. Et surtout, alors effectivement, c'est un musicien intense dans sa manière de chanter, dans sa manière de jouer la guitare, qui est emprunté à la base. C'est un musicien qui vient d'abord du métal, ensuite de la musique expérimentale. Donc il vient d'une pratique de l'instrument qui est peut-être qu'on pourrait lier à des choses de la musique expérimentale, des guitaristes comme Derek Bailey ou Lauren Mazzacane Connors, qui sont des gens qui ont cherché, ou même Thurston Moore de Sonic Youth, qui sont des gens qui ont cherché beaucoup, qui ont beaucoup joué et qui ont beaucoup expérimenté avec la tessiture de des instruments à cordes. Moi, je l'ai découvert d'abord en concert, il y a 3 ans, dans un concert à Paris, à l'église Saint-Méry, où j'avais été absolument stupéfait, parce qu'il faisait la moitié du concert a cappella, et j'avais l'impression de voir un mélange entre Caruso et un type qui sortait d'un pub. Et ensuite, en fouillant, j'avais découvert cette chanson qui s'appelait The Vile Stuff, qui est un clip que vous pouvez voir sur Internet, une 12 minutes de trance, de folk métallique, comme une sorte de descente dans les enfers, dans les enfers de l'alcool, un truc d'une puissance et d'une ampleur absolument incroyable. Et j'ai plongé dans son œuvre et c'est littéralement le seul artiste songwriter qui me passionne depuis 3 ou 4 ans. Donc là, je suis extrêmement heureux de cet album parce que c'est un disque panoramique au sens propre. Il y a un sous-texte un peu épais puisque toutes ces chansons sont supposées se dérouler au 7e siècle dans un endroit précis qui est en gros le royaume médiéval de Northumbrie. Non, mais c'est important parce que lui il fait évidemment un parallèle avec notre monde, avec l'Angleterre contemporaine. Et pour moi c'est la plus grande découverte, on va dire, autour de l'art de la chanson anglo-saxonne depuis Sufjan Stevens, sans doute à l'époque où il avait fait Michigan. C'est de cet ordre-là, même si effectivement il faut passer une intensité, une vitesse, mais c'est aussi un très grand mélodiste. Il écrit extrêmement bien. Tous ceux qui pensaient que l'anglais était une lingua franca, une langue internationale, là c'est une vraie langue. Hein. C'est un anglais c'est entre Chaucer, Angela Carter, Joyce. Vraiment, il faut aller y voir sa manière d'utiliser l'anglais, les mots propres, l'anglais ancien aussi. Bon, voilà, c'est un objet très dense.
Qui mérite un peu de travail à vous écouter.
Oui, mais toutes les grandes œuvres méritent du travail. Même Sgt. Pepper. Je sais pas,
oui, non, peut-être Joyce, qu'elle donne envie de faire du travail.
Voilà, c'est-à-dire que il y a un élan qui doit venir, évidemment. Moi, je pense que là, il y a suffisamment de mélodie, de tendresse et de cœur pour nous emmener assez facilement.
Richard Dawson, le conseil de l'année pour Olivier Lam.
Ouais, non, j'exagère pas.
Non, mais c'est pour ça que je le souligne. Ouais. Je le dis avec toute la sympathie, l'amitié que je vous porte. Cet album sort demain chez Domino Records. La tournée, pour l'instant, se limite à la Grande-Bretagne, mais Olivier Lam va devenir tourneur pour que Richard Dawson puisse jouer sous nos latitudes.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte.
Et pour ce troisième temps qui va être rapide, notre dispute musicale, les bien nommés Cigarettes After Sex, un groupe de Brooklyn qui avait sorti un premier EP en 2012 dans l'indifférence à peu près générale, et puis le titre Affection en 2015 a mis le groupe en lumière. Ils sortent le 9 juin leur premier album. On écoute le morceau Apocalypse. Alors, on parle, mais la musique, c'est fini, là. Il faut revenir à la dispute.
On était sur les algorithmes.
On était sur les algorithmes, oui. Cigarettes After Sex, moi, j'étais passé à côté tout à fait. Et c'est vrai que je vous le disais pendant que le morceau était diffusé, il me fait vraiment penser à un autre morceau, mais j'arrive pas à savoir lequel. Et en même temps, je me dis, c'est parce que c'est une musique, pour le coup, dans laquelle je me sens chez moi, un univers musical où je me sens tout à fait chez moi. Je crois que c'est un sentiment qui, visiblement, est très partagé, Christophe Comte, vous me disiez.
Alors, moi, je vais faire court.
Quelque chose autour de Cigarettes After Sex.
Il y a quelque chose qui se passe autour de ce groupe en ce moment, qui est un groupe essentiellement constitué d'un jeune homme.
Ah oui, donc j'apprends donc.
Sémillant. Oui, c'est
que la voix que nous
chante,
entendre, c'est un homme, garçon, Greg, voilà,
de
Gonzalez.
De Brooklyn. Moi, j'étais passé à côté du premier maxi et tout ça, j'ai découvert ça vraiment très tardivement. Je vais pas aller plus loin. Pour moi, c'est le plus beau disque que j'ai entendu depuis le début de l'année, depuis très très longtemps. Je trouve la production, les mélodies, l'interprétation, je trouve ça splendide de bout en bout, plus que les maxi qui avaient un côté Mazistar un petit peu plus peut-être un peu plus fragile. Là, il y a quand même quelque chose de très affirmé, avec une production encore une fois qui est somptueuse. On a pu l'entendre sur ce morceau, mais c'est vraiment sur tous les morceaux. Et je suis exactement comme vous, je me sens chez moi, j'ai l'impression de pas pouvoir me passer de ce disque que j'écoute tous les jours, et d'ailleurs qui handicape d'ailleurs mon écoute des autres albums, parce que à chaque fois j'ai envie de réécouter celui-là pour me purifier de tout ce qu'on entend comme chose insupportable à longueur de temps quand on est obligé de tout écouter, enfin d'écouter beaucoup de choses. Et là, ce disque-là est une sorte de bouée de sauvetage à chaque fois, et je le trouve splendide et j'encourage tout le monde à l'écouter.
Je vous suis là-dessus. Olivier Lam.
Oui, j'avais un peu peur en écoutant pour la première fois sur les conseils de Christophe de rentrer dans un monde un peu exclusif, un peu comme, les discographies de Bedhead, Destroyer, ce genre de compositeurs, toujours qui jouent sur la même corde, qui sont absolument passionnants, mais qui nécessitent une acclimatation et puis un peu de travail, comme on disait tout à l'heure. Et en fait, assez immédiatement, dès qu'il y a un refrain qui arrive, on se rend compte qu'il y a une évidence mélodique qui place immédiatement ce garçon au-dessus de la mêlée indie, on va dire, pour rester un peu général. C'est une espèce de mélange. C'est pas vraiment un mélange non plus, parce que c'est trop singulier, mais enfin, on pense un peu au Phil Mice, au Red House Panthers, on pense aux Cocteau Twins, évidemment, pour la production, et donc pour une sorte de veine Americana twee, c'est juste pas vraiment le dire mieux que ça, qui est très agréable. Mais ce qui est surtout frappant, c'est que toutes les voix auxquelles fait penser la voix de Greg Gonzalez sont des voix de femmes. Moi, je pensais à Alice Fraser, à Tracy Thorn, de Everything But The Girl, à Hope Sandoval, évidemment, et on pense à aucun chanteur. Donc en termes oniriques, c'est assez puissant. C'est beau.
Bon, c'est beau. Voilà. Americana, twee, comme ça.
Ouais.
Ouais. C'est un album assez coffee-vie, moi, je dirais, plutôt.
Comment vous le prononcez?
Coffee-vie.
Coffee-vie.
Oh, d'accord, Christophe.
Tout le monde. Ça va nous servir très longtemps.
Ça va nous servir assez longtemps.
Il faut dire aussi, très beau nom de groupe, quand même. Cigarettes After Sex, enfin, franchement.
Personne ne l'avait trouvé, c'est incroyable.
Voilà, après tous ces noms de groupe insupportables, les The Drums, et je sais pas quoi. Là.
Et tous les noms qui sont doubles, vous savez.
Et tous les noms qui sont
les
doubles.
Les billing.
Tous les black machins, les trucs, il y en a 50. Là, on a un groupe qui arrive avec un nom absolument splendide. Enfin,
cigarette, moi, en tant que non-fumeur, ça me touche assez peu.
Ouais, mais bon, et justement, il est tellement beau ce titre, Cigarettes After Sex. C'est le titre du premier album.
Vapoter After Sex, c'est moins.
Vapoting.
C'est moins chic. Vapoting After Sex, c'était moins intéressant.
En tout cas, alors du coup, on a pris un peu d'avance parce qu'il sort que le 9 juin. Chez Partisan Records, mais on a fait une exception parce qu'on avait très envie. Et je vous remercie, Christophe, de m'avoir fait découvrir.
Il y a quelques morceaux déjà disponibles, qu'on peut entendre, qui sont de très beaux morceaux, mais c'est bien de découvrir, doucement ce disque qui est vraiment très important. Je pense, encore une fois, cette année, on entendra peu de choses aussi splendides.
Par Richard Dawson, évidemment.
Par Richard Dawson. On voit que les goûts sont très larges dans cette émission et c'est son objectif, ça tombe bien. Pour les concerts, il faudra attendre le 29 juillet à Cabourg, le festival Cabourg Mon Amour. Cabourg Mon Amour, c'est Great After Sex. le 30 juillet aux Nuits Secrètes de Noa Emery, puis à Luxembourg, Bruxelles. Retour en France, 22 novembre à Strasbourg, 23 novembre à Lyon, 4 décembre, ce sera pour Zurich.
J'ai eu la mauvaise idée de passer un mois avant la sortie de leur album, hein, ce qui fait quand même pas très intelligent.
Bon, il faut qu'ils reviennent.
Voilà.
Nous les attendons.
Reviens Greg.
Secrets After Sex chez Partisan Records. Et avant de conclure tout à fait l'émission, le jeu de la dispute, Justine Debling nous a rejoint, elle aussi envoûtée par Secrets After Sex. Mais là, vous allez plutôt nous parler du jeu d'abord d'hier soir en nous rappelant la question avant de donner la réponse.
Donc, Philippe Garrel était déjà présent à la quinzaine des réalisateurs pour un long métrage mettant en scène un trio entre un homme et deux femmes. De quel film s'agissait-il ? Il s'agissait de L'ombre des femmes en 2015.
Et ce soir, nous faisons gagner des DVD du film Tarang de Wang Bing. C'est un DVD distribué par Arte. Justine, quelle est la question ?
Dans son film Ta-Hang, Wang Bing accompagne cette ethnie éponyme à fuir les conflits armés incessants à la frontière sino-birmane. Depuis quand la Birmanie est-elle en guerre ?
Votre réponse ainsi que vos coordonnées postales à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations sur cette émission à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute, un site sur lequel vous pouvez réécouter ou podcaster nos émissions. Vous pouvez bien sûr aussi nous y écrire, nous contacter aussi via la page Facebook La Dispute FC ou le compte Twitter Dispute FC. On vous donne rendez-vous demain à 21h pour une dispute consacrée à la bande dessinée en compagnie de Joseph Gosne et Antoine Guillot. À notre affiche, Une sœur de Bastien Vives, La fissure de Guillermo Abril et Carlos Spotorno et Les praticiens de l'infernal, volume 2 de Pierre Lapolice. Bonne fin de soirée à l'écoute de France Culture. À 22h15, les discussions du soir dans quelques instants, le journal de la rédaction.